Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. La fermeture des commerces à cause du confinement a relancé la guerre contre le géant du commerce en ligne Amazon, François.
Oui, on connaît la problématique un peu saugrenue d'ailleurs. Hein, les commerces physiques fermés pour éviter les interactions sociales dans les villes et donc le risque de contagion. Et puis, ces petits commerces se plaignent du fait que pendant ce temps-là, les grandes surfaces restent ouvertes et qu'elles exercent donc une concurrence déloyale sur un certain nombre de produits que eux n'ont plus le droit de vendre et que les grandes surfaces peuvent vendre. Du coup, deuxième étape, on ferme les rayons dits non essentiels des grandes surfaces pour rééquilibrer la concurrence et on crée mécaniquement un appel d'air pour le commerce en ligne. Or, le leader incontesté du commerce en ligne, c'est Amazon, c'est l'américain. Cette société connue mondialement, fondée il y a presque 30 ans quand même, en 1994 par Jeff Bezos, qui avait l'impression d'avoir raté le début du e-commerce et qui regrettait de ne pas avoir fait fortune. Ça s'est arrangé depuis. Au départ, vous vous en souvenez, c'était une librairie en ligne. Vente de livres et de disques exclusivement. Et puis, petit à petit, ils ont étendu leur champ. C'est devenu l'omni-magasin. Ils vendent tout, même du matériel pour le secteur du bâtiment, plus une plateforme de e-commerce sur laquelle les commerces indépendants peuvent écouler leurs marchandises.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Amazon a déjà profité de l'épidémie au moment du premier confinement? Est-ce qu'on a déjà des chiffres qui attestent leur réussite à ce moment-là?
C'est spectaculaire. Au deuxième trimestre, donc celui du confinement, il faut se souvenir que le jour où le nombre maximum de pays est en confinement, c'est le 10 avril, donc en plein cœur du deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Amazon bondit de 40%. Idem au troisième trimestre où c'est 37% de croissance. En fait, on attend d'ailleurs les chiffres du quatrième trimestre, on s'attend à ce qu'ils dépassent très largement 100 milliards de dollars de ventes sur ces seuls 3 mois. Donc c'est une progression incontestable qui se double d'une multiplication par 3 du profit trimestriel. Amazon a donné d'ailleurs des chiffres aussi sur l'emploi. Elle aurait embauché 400 000 personnes sur la seule année 2020 pour arriver à un total de quasiment 900 000 employés dans le monde. C'est l'équivalent d'un très 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 gros groupe de grande distribution.
Mais alors, quelle est exactement aujourd'hui la part d'Amazon dans le commerce français, puisque c'est le sujet qui nous occupe beaucoup?
Selon le cabinet Kantar, qui est spécialisé justement dans les mesures de ce type, Amazon aurait 22% du marché de la vente en ligne en France. Ça fait d'Amazon évidemment le numéro 1. En numéro 2, on trouve un Français, Cdiscount, qui lui est beaucoup plus loin, à 8%. Et puis, des enseignes aussi réputées que Fnac Darty, la Fnac a quand même 70 ans, la Redoute encore davantage, et ces enseignes sont, elles, aux alentours de 2%, c'est-à-dire 10 fois moins qu'Amazon. Si on s'attache à compter les visites, ce qu'on appelle les visites uniques, eh bien, le site d'Amazon en reçoit 31 millions par mois. Et en 2019, selon le journal Les Échos, 22 millions de Français ont fait leurs achats sur Amazon. Ça fait un Français sur 3. Et en moyenne, chacun d'entre eux a dépensé 349 euros dans l'année sur une dizaine de commandes qui ont été effectuées durant cette année 2019. La croissance est en France aussi très forte. Moins forte qu'au plan mondial quand même. C'est de l'ordre de 17% par an. C'était des chiffres avant le confinement, il faut le dire. Attendons de voir ce que le confinement va donner.
Alors, qu'est-ce qui explique fondamentalement ce succès? Est-ce que finalement, ils sont meilleurs que les autres, tout simplement, plus efficaces?
Il y a les deux. Il y a à la fois, je dirais, des arguments, des raisons qui sont très contestables. Celle sur laquelle on insiste toujours, c'est les impôts. Bon, c'est vrai qu'ils ne payent pas leurs impôts comme les autres parce qu'ils profitent de la possibilité d'optimisation fiscale. Rappelons-le, c'est légal et c'est plutôt un problème européen, mais c'est-à-dire la possibilité de délocaliser artificiellement leur chiffre d'affaires dans les pays où les taxes sont les plus faibles, c'est le Luxembourg, c'est l'Irlande. Alors qu'une entreprise proprement nationale qui ne fait que son commerce dans un pays, en France par exemple, elle n'a pas cette possibilité. Et évidemment, elle est soumise au taux d'imposition français. Ça leur permet de faire des économies très importantes. Donc ça, c'est, je dirais, pour la concurrence par rapport aux autres sites de e-commerce nationaux. Et quand on les compare à la grande distribution, c'est vrai aussi, c'est au moins l'argument de la grande distribution traditionnelle, que sur le plan fiscal, ils n'ont pas tout à fait les mêmes obligations. Donc, ils courent avec un sac à dos où il y a un peu moins de pierres. Mais vous l'avez dit, et il faut le dire, ils sont quand même très bons. Hein, et c'est quand même ça le sujet central. Les livraisons sont fiables, le service client est extrêmement réactif, il y a un choix très étendu, et puis le site est très bien conçu, quoi. Il y a là un savoir-faire, une expertise en matière de commerce et de e-commerce qui est tout à fait remarquable. Le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'en France, on avait ça. On a inventé, non pas le e-commerce.
Mais oui, la Redoute, les Trois Suisses au départ.
La VPC, on appelait ça.
Ouais, hein,
la vente par correspondance. Ouais. Et moi, je me souviens qu'il y a 35 ans, c'était la Redoute, c'était les Trois Suisses qui avaient été les pionniers avec les ventes par Minitel.
Oui.
Ils avaient des sites de 36-15, comme on disait à l'époque, qui étaient parmi les plus efficaces, les plus fréquentés. Et ils n'ont pas pris le virage d'Internet. C'est stupéfiant. Eux l'expliquent d'ailleurs par le fait que leur clientèle était assez âgée et qu'elle n'était pas familiarisée avec...
Elle voulait le catalogue, hein, le catalogue papier.
Voilà, qu'elle était attachée aux éléments traditionnels de la grande distribution. Ce qui est quand même étonnant, c'est que, bon, ils ont réussi le Minitel, mais pas l'Internet. Alors que, bon, probablement la diffusion du Minitel était supérieure à celle de l'Internet, au moins dans les années intermédiaires, parce que la diffusion était assurée par France Télécom. Mais reste que, ils se sont fait doubler dans la côte. Bon, alors on a quand même réussi à créer des sociétés françaises de e-commerce. Il y a ces discounts dont on parlait, qui est une vraie réussite. Il y a Sarenza, alors qui était le leader de la vente en ligne de chaussures. C'était une nouvelle génération. Eux se sont beaucoup plaints justement des distorsions fiscales qui favorisaient Amazon.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Amazon contribue positivement finalement à la réussite de l'économie française ?
C'est très difficile à dire. Ce qui est vrai, c'est que c'est certainement l'un des plus gros recruteurs français. On stigmatise d'ailleurs la médiocre qualité des emplois.
L'emploi de cariste est un emploi qui est très recherché dans un certain nombre de régions de France.
Absolument, absolument. Et c'est pas non plus des emplois qui sont sous-qualifiés ou sous-payés. Disons, globalement dans les services, le niveau de rémunération est plutôt inférieur à celui de l'industrie. Mais pour autant, les emplois d'Amazon ne sont pas les plus mauvais. Alors, ça se déroule souvent dans des climats assez difficiles. Vous avez vu tout récemment la polémique sur la construction d'entrepôts géants.
Hein, oui, à côté du pont du Gard, notamment.
Voilà, qui défigurerait le site. Il y a une autre polémique à Nantes, entrepôt de près de 400 mètres de long et qui occasionnerait plusieurs milliers de déplacements de camions pour les livraisons. Et du coup, les riverains disent on préfère rester tranquille. Donc là... Faut quand même choisir, hein, la tranquillité ou les emplois, c'est pas forcément compatible. Est-ce qu'on préfère vivre au calme mais ne pas avoir de boulot? C'est quand même pas une question facile. Il y a une étude de Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État au numérique, qui est assez troublante, qui dit qu'un emploi créé dans le e-commerce en détruit plus de deux dans le commerce traditionnel. Bon. On aimerait bien voir ces calculs, parce que malheureusement je ne les ai pas trouvés, parce que tout ça se mesure, certainement, mais il faut le faire sérieusement, j'espère que c'est le cas. Ce qui est sûr, c'est que la destruction des commerces traditionnels, au-delà même du simple compte sur l'emploi, elle a d'autres inconvénients qui ne sont pas mesurables économiquement. C'est que ça fiche en l'air les centres-villes, ça les déshumanise, ça c'est un vrai problème. Si on avait des centres-villes qui se désertifiaient au profit de gigantesques entrepôts à 30 km, bon, c'est un peu ce qu'on a connu avec l'arrivée des supermarchés il y a 50 ans, mais ça serait un élément de plus, ça serait regrettable. Il faut pas oublier quand même, dans l'apport d'Amazon dans l'économie française, que c'est aussi, comme on le disait, une place de marché et qu'elle permet justement à des petits producteurs locaux de vendre.
De vendre, hein,
et de ne pas avoir besoin de s'équiper en site internet, de bénéficier
de l'infrastructure,
pas de porte, hein, et puis des infrastructures qui sont de très bonne qualité. Vous savez que quand on veut vendre ses pots de miel ou son artisanat ou quoi que ce soit, des produits neufs ou d'occasion sur Amazon, on paye une redevance à Amazon de 15% de marge. L'autre élément, c'est l'impact environnemental. Il est difficile à évaluer aussi, parce que spontanément, on se dit, je ne me déplace pas, donc je fais des économies. Oui, mais enfin, il y a quand même quelqu'un qui vient chez vous. Hein. Il vient avec un camion pour 50 livraisons. De ce point de vue, on peut imaginer que le coût en carbone est plus faible. Mais vous-même, vous avez quand même consulté sur Internet.
Et ça a une empreinte carbone.
C'est quand même assez vorace. Ouais. Hein. On sait que le numérique représente maintenant plusieurs pourcents de la consommation électrique et donc des émissions carbone. Bilan qui n'est pas aussi négatif que le disent les détracteurs du point de vue de la contribution à l'économie, mais qui pour autant n'est pas non plus complètement dématérialisé.
Alors est-ce qu'on peut faire le pari, François, qu'Amazon sortira forcément renforcé de cette période de confinement, ou bien finalement ce sera peut-être un peu plus compliqué? On voit aujourd'hui que certains commerçants disent on va aller bloquer les dépôts d'Amazon, que dans certains supermarchés il y a des boîtes de réception d'Amazon qui sont installées, et que des commerçants disent moi si je ne peux pas vendre dans mon magasin, pourquoi est-ce que j'accueillerai Amazon? Est-ce que ça peut compromettre finalement la réussite globale d'Amazon?
Je pense qu'au fond, c'est quand même d'autres acteurs qui vont avoir le dernier mot, le client.
Oui.
Parce que justement, un service pas cher et bien rendu, il y a toujours un marché pour ça. Sauf si vous avez une régulation très puissante, mais on imagine mal que les gouvernements ou les autorités locales aillent à rebours de ce qu'il faut maintenant appeler une habitude que nous avons prise. Et de ce point de vue, on imagine bien que l'épidémie va plutôt renforcer Amazon quand même. L'autre force, alors c'est quand même le régulateur, mais pas tellement en Europe, c'est plutôt aux États-Unis. Vous savez qu'il y a tout un mouvement aux États-Unis. Les 50 procureurs des 50 États fédérés ont lancé une action judiciaire commune pour justement combattre la position dominante d'Amazon. Jusqu'où vont-ils aller? Est-ce que ça peut déboucher sur une partition de l'entreprise, comme on l'a fait à différentes époques aux États-Unis, quand par exemple Standard Oil était trop puissante, ou ATT, le fournisseur de services téléphoniques dans les années 80, qu'on a démantelé en plusieurs sociétés régionales? C'est possible, et de ce point de vue, le résultat de l'élection américaine sera important. Ce sont plutôt les démocrates qui sont désireux de s'en prendre à Amazon. Les républicains, à partir du moment où les relations s'arrangent entre Jeff Bezos, qui est le fondateur et le patron, et Trump, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on peut imaginer que l'administration républicaine sera beaucoup plus coulante.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL ainsi que sur toutes vos plateformes favorites.